Bonjour à tous et bienvenue sur Calade, au sommaire de notre journal local et régional. Michel Diebold, électro-permaculture, animera une conférence sur le thème « La sécheresse au jardin » le 23 juin à Civrieux-d'Azergues, l'occasion de mieux comprendre cette pratique de culture. Puis, Alternativa Beaujolais vous invite à découvrir le rapport mi-mandat municipal des mesures prises pour le climat réalisé en Beaujolais et sur le territoire national. Le point avec Marjorie, membre locale d'Alternativa Beaujolais. Et en conclusion, le défi sportif en Calade, c'est samedi au plan d'eau du Bordelan. Calade, le journal. Il ne fait pas bon être un animal prédateur de France, nous confie Ariane Brossini pour Reporter. Au premier rang de ces petits prédateurs, naturellement présents dans nos campagnes, se trouve le renard, cible d'importants massacres. Cette espèce a montré qu'elle était capable de répondre à d'intenses campagnes d'abattage en adaptant ses mœurs pour reconstituer et maintenir ses populations. Loin de prendre acte et d'adapter nos habitudes destructrices à la présence de cet animal, plein d'enseignements, la réglementation française autorise un large panel d'outils de mise à mort spécifiques à cet animal. Le renard est chassé par tir de septembre au dernier jour de février, mais les préfets peuvent de manière dérogatoire autoriser la chasse du renard dès le 1er juin. Jusqu'à fin mars, le renard subit également les chasses à courre, au cours desquelles l'animal est poursuivi par des meutes de chiens. Quel que soit le mode de chasse, le renard subit 10 mois par an le funeste loisir d'une frange de la population qui ne représente guère plus de 2% de nos concitoyens. Le renard est également la cible privilégiée de la vénerie sous terre ou d'éterrage. Ce mode de chasse est remarquable par sa brutalité. L'animal sauvage est acculé au fond de son terrier par un chien de chasse dont les aboiements signalent la présence et la localisation de l'animal. Traqué, pioche et pince permettent alors au chasseur de creuser le sol et d'extraire le renard qui sera soit achevé, soit relâché dans un état de stress auquel peu d'individus survivent. Le renard fait ainsi partie des espèces pouvant être classées nuisibles. Les techniques de piégeage autorisées sont source de grandes souffrances pour le renard, mais également pour les autres animaux accidentellement capturés. En effet, qui peut croire que seul le renard est attiré par un bout de viande à portée de museau? Martres, putois, mais aussi chiens ou chats domestiques sont les victimes collatérales de ces engins de torture. Rien ne justifie l'abattage massif et brutal dont le renard fait l'objet. Nous savons aujourd'hui que chaque espèce joue un rôle au sein du milieu dans lequel il évolue. Nous connaissons les bienfaits d'un renard sur les cultures qu'il débarrasse de rongeurs. Nous reconnaissons à chaque animal le caractère d'être vivant, doué de sensibilité. Il est grand temps que l'intérêt général prime sur le particulier, destructeur d'une seule poignée de personnes. Michel Diebold, spécialiste en permaculture et électroculture, animera une conférence sur le thème « La sécheresse au jardin » le vendredi 23 juin à 20h30, salle de l'Europe à Civrieux-d'Azergues, une conférence à l'initiative d'Alterninfo et Sierra Cetera. Michel Diebold est joint par téléphone.
Alors, ce sont deux disciplines différentes, mais qui peuvent être complémentaires, bien entendu. Donc, la permaculture, c'est un domaine culturel qui est déjà un peu connu, encore que beaucoup de gens y mettent un peu n'importe quoi là-dedans. Mais l'électroculture, c'est quelque chose qui est très ancien, mais qui revient doucement à la mode, si je puis dire ça comme ça.
Comment fonctionne l'électroculture?
L'électroculture, en résumé extrêmement succinct, c'est l'art et la manière d'utiliser les énergies cosmiques et les énergies telluriques au profit des plantes, c'est-à-dire en utiliser les énergies libres, gratuites et renouvelables.
Quelles sont les techniques?
On va utiliser les ondes magnétiques terrestres, donc elles sont là, qu'on les ressente, qu'on les ressente pas, elles sont là. Donc le tout, c'est de savoir comment les utiliser. Et quant à l'électricité qu'il y a dans l'air, l'électricité atmosphérique, c'est aussi quelque chose qui est là, qui est présent, qu'on va utiliser. Là aussi, aucune perception n'est nécessaire. Ce sont des techniques très anciennes qui existent depuis avant la Révolution française et qui étaient très développées à cette époque-là. Et dans les années 1900, c'était vraiment l'essor et l'avenir de l'agriculture. l'agriculture mondiale. Il y avait énormément de travaux de fait, de publications. Il y avait même eu un congrès mondial de l'électroculture en 1910. Enfin, c'était quelque chose qui était évident, connu et reconnu. Et puis cette pratique-là a été stoppée, je vais dire ça comme ça, alors c'est mon interprétation, a été stoppée par le plan Marshall et la fin de la Seconde Guerre mondiale, où le plan Marshall, ils nous ont prêté de l'argent à condition qu'on achète leur matériel agricole, et a commencé l'agriculture extensive, l'arrachement des bocages, l'élimination des haies, et donc la transformation de l'agriculture française, qui était une agriculture plutôt vivrière, plutôt de bocage, plutôt nourricière, à une exploitation plutôt industrielle, donc avec des visées et des moyens complètement différents.
Dans le but de faire de la production intensive.
Voilà. Aujourd'hui, la production intensive, on
en revient.
On perçoit qu'on est arrivé au bout, avec les limites et les dégâts que ça a pu créer. Et on essaye de faire machine en arrière, puisqu'on a même des subventions pour planter des haies, pour recréer de la biodiversité. Et donc les techniques plus anciennes reviennent au goût du jour.
Quelle est la méthode d'utilisation dans nos jardins et quels sont les résultats?
Alors, donc, le domaine est très vaste. Il est très vaste, il y a beaucoup de domaines d'application. Donc l'électroculture, encore une fois, on va utiliser les énergies magnétiques. Donc la plante profite beaucoup des énergies magnétiques. Et puis on va utiliser les énergies magnétiques d'une part pour créer des flux électriques et on va utiliser les énergies électriques pour créer des flux magnétiques. Donc c'est une combinaison un peu savante et compliquée à dire, mais c'est très facile à faire. Et ça se résume au jardin à enterrer des fils de fer, à mettre des aimants ou des choses qui ont une valeur marchande quasiment nulle.
L'électroculture est l'ensemble d'une méthode qui consiste à favoriser et améliorer la croissance des végétaux.
Il y a beaucoup de dispositifs possibles suivant ce qu'on veut faire. Mais en fait, pour essayer d'illustrer ça, si on pouvait visualiser les énergies, on verrait que les énergies sont dans des strates horizontales. Dans le ciel, on a plutôt des énergies positives, et puis dans le sol, on a plutôt des énergies négatives, mais c'est en strate horizontale. Et en fait, le but, c'est de relier ces deux énergies-là, un peu comme un paratonnerre qui permet de relier ces énergies, donc de créer des flux électriques assez importants.
Une conférence de Michel Diebold, électro-permaculteur et spécialiste de la permaculture, animera une conférence sur le thème « La sécheresse au jardin » le 23 juin à Civrieux-d'Azergues, à 20h30, salle de l'Europe. Une conférence à l'initiative d'Alterninfo et Seracetera. Alternativa, urgence climatique, le rapport mi-mandat municipal des mesures prises pour le climat en Beaujolais. Initiative citoyenne pour Alternativa Beaujolais, une enquête en mi-mandat des municipales afin de dresser le bilan de l'avancée des politiques locales de transition écologique, sociale et démocratique. Le bilan climat du Beaujolais au travers de 13 collectivités, 11 communes et 2 intercommunalités, l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône et la communauté de communes Saône-Beaujolais. Le point du rapport tout de suite avec Marjorie, membre locale d'Alternativa Beaujolais.
Alors c'est plus large que le mouvement Alternativa puisqu'en fait c'est issu du pacte pour la transition qui a été initié en 2020 au moment des municipales, qui regroupe donc plusieurs organisations dont Alternativa. Et l'idée de départ c'était de déterminer un certain nombre de mesures qui permettaient de respecter les accords de Paris. Donc il y a 32 mesures qui avaient été présentées à plus de 1000 équipes de candidats aux municipales et qui avaient signé ce pacte. Et sur ces 1000-là, donc il y en a 300 qui ont été élus finalement. Et l'idée, c'est au bout de 3 ans de faire le point à mi-mandat, de savoir ceux qui s'étaient engagés, où est-ce qu'ils en sont, et ceux qui ne s'étaient pas engagés non plus, où est-ce qu'ils en sont sur les mesures à prendre en œuvre pour lutter contre le dérèglement climatique.
Le groupe Beaujolais local, Villefranche-Beaujolais en gros, s'est lancé, dans cette fameuse enquête. Alors comment on a procédé? Et puis bien sûr, après on parlera de ce qui en ressort.
Alors le principe, c'est de Déjà, ça part d'une expertise citoyenne, parce que nous, on est certes des militants, mais on a été voir aussi des citoyens pour essayer d'évaluer. Donc c'est un outil qui a été mis en place, qui regroupe les 32 mesures avec tout un questionnaire qui permet d'évaluer la situation, ce qui est fait ou pas fait dans chaque entité, en fait, commune ou agglo. Donc du coup, on a réalisé cette enquête en trouvant des citoyens qui vivaient dans la commune, qui répondaient à cette enquête, et ensuite on a sollicité les élus de la majorité municipale pour avoir leur retour, donc faire une rebalayer cette enquête ensemble pour avoir ces informations-là. Ça permet en fait de sortir pour chaque thématique une note, de savoir où on en est par rapport à ce 100% qui serait atteindre les accords, respecter les accords de Paris.
Est-ce que c'est bien exhaustif effectivement de prendre des individus comme ça ?
Alors c'est ce qui fait l'exhaustivité, c'est l'outil, puisqu'en fait l'outil il pose toutes les questions pour ces 32 mesures. Donc quand on a posé toutes les questions, après on n'a pas forcément toutes les réponses. Et on voit, toutes les communes n'ont pas accepté de répondre. Il y a des communes où on a rencontré les élus et on a eu du coup un diagnostic beaucoup plus complet, puisque eux, ils ont plus d'informations que ce qu'on peut, nous, en tant que citoyens, trouver. Après, il y a des communes qu'on a évaluées uniquement avec des citoyens parce que les municipalités ont refusé ou l'agglomération a refusé de nous recevoir. Donc du coup, on n'a pas pu faire avec eux. Ce qu'on a fait aussi, nous, c'est d'essayer d'évaluer la dynamique. C'est-à-dire qu'on a donné une note sur ce qui est fait à l'heure actuelle. Et on a donné aussi une note sur les projets en cours, quelles notes permettent d'atteindre ces projets-là pour voir quelle était la dynamique en cours justement sur chaque commune.
Alors justement, les différentes dynamiques, j'imagine, mobilité...
Oui, donc déjà, on a aussi fait, pour comparer l'agglomération de Villefranche, on a été voir la CCSB, donc la communauté de communes de Belleville. On a vraiment une très forte disparité entre les deux agglos finalement, avec une dynamique beaucoup plus forte, beaucoup plus en place sur Belleville versus l'agglo de Villefranche. Et là, on se rend compte que c'est quand même le même territoire. C'est pas des bobos écolos qui tiennent l'agglo de Belleville, hein, clairement. Par contre, on voit qu'il y a moyen, si on a une vraie volonté politique, de faire les choses. Alors certes, ils s'y sont pris beaucoup plus tôt. Hein, je pense que l'agglo de Villefranche, par rapport à ça, a un ou deux mandats de retard, en gros. Mais il y a moyen de faire des choses. Après, on voit qu'il y a des thématiques qui ressortent vraiment fortes. Il y a des thématiques où on n'est pas si mauvais que ça. Donc typiquement, la politique du logement, c'est pas mal. Environnement, biodiversité, c'est pas mal. Il y a des thématiques où on sent que ça bouge, c'est-à-dire qu'il y a des actions et surtout il y a de la dynamique. Donc c'est le cas de la mobilité, c'est le cas de l'aménagement et urbanisme. Avec un petit bémol, c'est que le PLUIH est en cours et on attend de savoir ce qui va en sortir. Donc ça, c'est des thématiques qui ressortent en dynamique. La mobilité, j'en ai parlé. Et puis par contre, il y a des thématiques où on est vraiment très en retard, et en particulier la consommation responsable, l'agriculture. Enfin, il ne se passe rien pour avoir une agriculture plus responsable et moins émettrice de gaz à effet de serre, et la participation citoyenne. Et on retrouve la difficulté qu'on a eue à rencontrer les élus. Enfin, en tant que citoyen, c'est dur de trouver le contact, d'avoir son élu, de le rencontrer, et c'est vraiment dommage parce que ça devrait être beaucoup plus fluide. Et en plus, c'est vraiment un enjeu pour que les citoyens acceptent finalement la transition qu'on va devoir mettre en œuvre, parce que là, on n'a pas le choix. On subit déjà aujourd'hui la température dans le Beaujolais, et c'est pas fini.
Alternatiba est un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. Une enquête mi-mandat municipale a donc été réalisée de façon nationalement pour évaluer l'avancée de la transformation des territoires et l'ambition des mesures prises en place par les élus sur l'urgence climatique. Un rapport national des résultats de suivi de 103 collectivités donc disponible. L'antenne du Beaujolais Alternatiba a réalisé également le bilan climat de 13 collectivités, 11 communes et 2 intercommunalités, l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône et la communauté de communes Saône-Beaujolais, disponible également sur site. Et en conclusion à cette édition, le défi sportif Encalade, c'est samedi 24 juin au plan d'eau du Bordelon à Villefranche-sur-Saône. Un après-midi sous le signe du sport et de la découverte, c'est 7 activités sportives, kayak, paddle, VTT, tir à l'arc, course d'orientation, fitness ou encore biathlon. Ouvert à tous, à partir de 6 ans, les mineurs doivent être bien évidemment accompagnés. Et bonus, des récompenses pour chaque défi sportif. Libre et gratuit, sans limite d'heure, au plan d'eau du Bordelon à Villefranche, le samedi 24 juin, pour le défi sportif 2023. fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.